Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la prépa. Moi c'est Flo, comme d'hab, nous sommes le 4 octobre et c'est un épisode où on va avoir pas mal de choses à débrief ensemble. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau sur le podcast, la coutume est que je vais vous dire en fait d'aller écouter ce podcast en vous bougeant, en faisant quelque chose qui vous permet d'être actif tout en écoutant le contenu. Donc allez marcher, allez faire un jog, une séance à la salle, votre ménage, mais surtout activez-vous et...
On démarre !
Et donc voilà, alors on va commencer par ce débrief de la semaine de repos, donc la semaine qui s'est passée juste après la Wildschrubel 70. En fait, j'ai pris la décision cette année-ci de faire une semaine de repos complète après cette course pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est que je voulais avoir vraiment un break mental au niveau de l'entraînement. Donc ça voulait dire absolument aucun entraînement pendant une semaine, que ce soit à la salle, que ce soit footing, que ce soit vélo. La seule chose que je me suis un peu autorisé en fait, c'est d'aller marcher, d'aller juste prendre un peu l'air. C'est vraiment la seule activité physique, on va dire, que je me suis autorisé. Je ne sais pas si c'était vraiment une bonne chose, je pense que oui, parce que je pense que ça m'a redonné envie de m'entraîner et puis ça m'a aussi un peu fait un reset au niveau, évidemment mental, mais au niveau physique. Maintenant, je ne pense pas que le bénéfice de ne pas s'entraîner sur une semaine était vraiment important, c'est-à-dire qu'au niveau récupération, je ne pense pas avoir vraiment ressenti quelque chose de bénéfique. Je pense que j'aurais peut-être une meilleure récupération justement en allant faire du vélo ou peut-être faire un peu de renforcement. Maintenant, je pense qu'au niveau hormonal, au niveau mental, là, effectivement, ça a joué. Je pense que ça m'a permis de revenir en fait avec une mentalité plus fraîche, avec une mentalité moins fatiguée de l'entraînement et de la préparation parce que l'air de rien, 3 mois de prep sur des courses, ça impacte globalement le système, surtout le système hormonal, la capacité à sécréter des hormones comme la testostérone et ce genre de choses. Donc voilà, tout ça c'était une décision en fait de manière générale de ne pas vouloir trop faire. Je pense également c'était aussi ce doute que j'ai eu pas mal pendant la prépa où je me suis dit ok, peut-être que la Wildschrubel c'est la course de trop. Et jusqu'au jour J, je me suis dit j'espère que c'est pas la course de trop. Je me le suis répété à 7 fois, je l'ai répété à mon entourage et d'un autre côté ça aurait pu me miner en fait, ça aurait pu être une mine antipersonnelle que j'étais en train de placer en ayant ça en tête. Mais je me suis dit ok, en fait on va voir comment ça se passe, reste dans le présent, reste dans ta tête, reste dans ton corps et on verra bien. Donc, comme on l'a expliqué dans le podcast avec William dans l'épisode, d'ailleurs si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, c'est un super bon débrief de la course, vous avez vraiment les deux points de vue de cette magnifique aventure. Donc n'hésitez surtout pas à aller l'écouter et n'hésitez surtout pas à laisser un like sur Spotify et Apple Podcasts parce que ça nous aide à fond pour le référencement. Donc voilà, ça c'était en grosso modo les raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de faire cette coupure. Maintenant, je sens que clairement il y a eu des points négatifs à cette coupure, notamment le fait de ne rien faire. Je sentais que mon corps était hyper nerveux, mon système nerveux était vraiment en feu constamment toute la semaine. Je sentais que j'avais envie d'en découdre, que j'avais envie de me bouger simplement. Donc ça a été un petit peu difficile. Alors d'un côté j'ai été plus productif sur pas mal d'autres choses, sur des petits projets, sur au niveau du travail effectivement, parce que voilà, ma charge de travail journalière a quand même réaugmenté fortement dernièrement. Voilà, tout ça c'est des aspects qui sont positifs. Négatifs, effectivement la nervosité ça a été quelque chose d'un peu difficile à gérer. Je pense que mes proches m'ont senti à fleur de peau, on va dire, même si j'avais un... Voilà, je me suis pas énervé, je me suis pas mis à 100, on va dire, mais il y avait de l'énergie en trop et je pense que ça rayonnait de ma personne. Donc voilà, ça a été le petit bémol, on va dire. Je pense que mon sommeil a également été impacté par ça. Le fait que je sois très nerveux et que j'ai du mal à trouver un certain repos en fait en soirée, ça a influencé pas mal sur la qualité de mon sommeil et ça s'est vu. J'ai eu des semaines de. Enfin, cette semaine-là, j'ai eu une moyenne de nuit à 5-6 heures de sommeil par nuit, avec une qualité de sommeil qui n'était pas forcément très très bonne. Donc je pense que ça, c'est un peu l'aspect négatif. Et grosso modo, en fait, oui, c'est ça. Sur l'aspect physique, ça m'a pas forcément aidé. Mais je pense que voilà, j'avais besoin de cette coupure et de me dire, on va repartir à zéro pour le reste de l'année. On va revoir un peu le programme, on va revoir un petit peu les objectifs et voir comment on peut rafraîchir un petit peu tout ça. Alors voilà, ça c'était grosso modo le débrief de la semaine de repos. Maintenant, la semaine après, ben, j'ai repris. J'ai quand même repris. J'ai même repris avant ça, c'est-à-dire qu'en fait, je m'étais donné une semaine, c'est-à-dire 7 jours de repos, mais le dimanche, en fait, je m'étais dit, bah, je vais quand même aller courir. Et en fait, bah, je suis allé sur le trail à Profondeville, le Houppie Trail, qui est un trail. En fait, c'est un départ différé, c'est pas vraiment une course avec un départ de masse, c'est un concept qui arrivait durant le Covid où en fait on ne pouvait pas avoir des rassemblements. En fait, ils se sont dit, bah, on va simplement mettre des balises, on va filer un dossard aux gens et les gens vont simplement faire la course et il y aura un résultat, mais tout en différé, donc il y aura un résultat après une semaine. Et là, en fait, il y a un petit diable qui est venu me tapoter sur l'épaule. Oui, bon, est-ce qu'on irait pas courir ensemble? De la part de François, mon partenaire de souffrance préféré, il m'a dit, je lui ai dit, bon, bah écoute, ça fait une semaine. Moi, je m'étais dit une semaine de repos, donc voilà. Il m'a dit, bah, ça fera 7 jours, ce dimanche-là. Je lui ai dit, ouais, bon, ok, c'est vrai. C'est vrai, mathématiquement, tu as raison. Donc j'ai pas résisté à l'appel. Je m'étais dit, bah, c'est une bonne façon de faire un petit diagnostic, en fait, de voir où en sont les sensations et de voir où en est le corps à ce moment-là de la récupération une semaine après, voir si j'avais pas des douleurs. Parce que en marchant, je sentais certaines gênes qui étaient quand même encore présentes, notamment au niveau du pied gauche. Mais le reste, je ne l'avais pas senti. Donc du coup, voilà, c'était une bonne façon d'aller tester sans pousser, sans mettre une intensité trop importante, parce que ben, François lui aussi reprenait doucement et c'était un petit peu, je vais pas dire un blabla run, mais c'était en fait l'histoire de reprendre ensemble et de refaire des bornes ensemble et de profiter un petit peu du soleil qui nous reste. Donc voilà, c'est très bien passé. C'était un petit 14 km tout pépère, parsemé de beaucoup de VTT parce que c'était l'ultra raid des trois vallées en même temps. C'est vrai qu'on a dû laisser passer pas mal de monde et au final, bah voilà, c'était bien. Il fallait pas plus. Du coup, bah, la semaine de vraie reprise, c'était le lundi. On a commencé le lundi directement. Alors, j'ai décidé de vraiment y aller juste au chrono, donc c'est-à-dire au temps passé dehors, plutôt que véritablement au kilomètre. Et je me suis dit, aujourd'hui, je vais aller faire 1 heure en zone 1, donc le diagnostic mécanique classique du lundi, après celui du dimanche, évidemment. Donc le dimanche, j'ai pas eu de mauvaise sensation, juste pour revenir là-dessus, mais cette douleur dans le pied gauche, ou en tout cas une sensation très bizarre, et une fois que ça chauffe, ça passe, mais toujours là. C'est comme une sorte de coussin sous les petits orteils, et c'est assez particulier parce qu'en fait on dirait que c'est une tendinite sans être une tendinite, ou en tout cas une tendinopathie, excusez-moi les kinés. Donc c'est-à-dire qu'une fois que ça chauffe, bah, ça part, mais j'ai pas encore vraiment de douleur au point de me dire c'est handicapant. Donc pour l'instant on est au stade où on observe, on remet doucement de la charge dessus et on se prend pas trop la tête. Donc voilà, cette semaine-ci, c'était vraiment reprise. On va pas mettre trop de volume, on va pas mettre trop d'intensité. J'avais quand même un petit objectif en tête d'aller chercher une soixantaine de kilomètres sur quatre, on va dire quatre sorties. Et j'avais surtout l'intention de reprendre très très fort la salle parce que ça me manquait énormément et que la météo ben, est plutôt propice à rester à l'intérieur en ce moment. Et je vous avoue que voilà, moi, cette période de l'automne-hiver, c'est la période où je vais passer beaucoup plus de temps à faire du renforcement et moins courir. Ça va me permettre d'avoir un bon reset et ça va me permettre aussi de faire d'autres activités en dehors de la course à pied pour ce que je considère un peu mon off-season, donc mon hors-saison. Alors, je sais que certains d'entre vous m'ont dit où est le Good Morning Vietnam, le premier mardi après la Vigitrubel. Bah, évidemment, là, c'était. En fait, j'avais un peu prévu que le mardi Vietnam, ça s'arrête avec la Vigitrubel. C'est-à-dire que je voyais les choses en mode bah, après la Vigitrubel, c'est la fin de ma saison. Je ne remettrai pas un ultra fin d'année, je ne remettrai pas un gros objectif fin d'année. Et ce qui est pour l'instant le cas, mais en fait le concept de quand même garder une journée de spécifique où je vais faire une sortie de qualité en course ou en trail, et après par derrière rajouter le renforcement au niveau des jambes, donc squat, etc. Ben en fait ça me manquait, c'est un peu dur, mais ça me manquait, et puis les gens, puis il y en a certains d'entre vous qui m'ont envoyé un message, mais elle est où la vidéo, t'as oublié un truc? Genre, t'oublies pas quelque chose, t'oublies pas quelque chose. Et au début, j'étais là, mais qu'est-ce que j'oublie? Et puis, petit drapeau de Vietnam dans les messages, j'étais là, ok, d'accord, ça va, j'ai compris. Donc, je pense qu'en fait, vous allez pas me lâcher avec ça. Et donc, ben, on va pas faire de hors-saison sans Vietnam. On va continuer le Good Morning Vietnam le mardi. Ça, c'est une habitude maintenant. Apparemment, c'est une tradition ancrée. Donc, je vais garder le concept. N'hésitez pas à me rejoindre dans ce délire parce que je sais qu'il y en a qui viennent le faire avec moi et c'est très sympa de recevoir les petits messages de motivation du mardi matin. Donc voilà, partagez la bonne parole, partagez le Good Morning Vietnam et défoncez des fibres le mardi parce que c'est un excellent jour pour le faire. Alors ce mardi, bah, reprise donc du mardi Vietnam, je me suis dit je vais aller faire du seuil, donc du VO2 max. Je veux reprendre de la vitesse. Alors pourquoi ça? Parce que ben, en fait c'est vrai qu'avec la Vigitrubel, les deux derniers blocs de l'entraînement étaient beaucoup focus sur le D+ et le D-. Et en fait là je suis de retour en Belgique, je suis de retour sur des courses en Belgique, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de grosse montée de 1800 mètres. Au maximum, on va prendre 200 mètres, et du coup, je me suis dit, ok, là, je vais remettre de la vitesse pour pouvoir en fait retravailler ma relance en montée, mais surtout sur le plat. Donc voilà, mon objectif est là de retravailler le VO2 max tranquillement, mettre un petit peu de vitesse, et tout ça sur du plat, un peu plus plat, donc effectivement, travailler plutôt des. Et ces allures métronomes qu'on a l'habitude de retrouver sur route, et transférer ça après sur des spécifiques le jeudi en dénivelé positif. Je pense qu'en D-, en fait, j'ai tellement eu une bonne prep à la Vigitrubel que le D-, c'est un truc, pas, je vais pas dire acquis, mais que je vais juste maintenir en fait sur mes séances de D+. C'est-à-dire que je vais pas forcément pousser beaucoup en D-, mais je sais que je peux mettre la vitesse et je sais que je peux mettre l'intensité sans avoir peur de me blesser. Je pense garder une bonne analyse du terrain et une bonne foulée à ce niveau-là. Donc voilà, là je veux retravailler vraiment la vitesse sur le plat. Peut-être un peu retravailler la résistance en montée pour le restant de l'hiver, mais on va faire ça dans un volume qui est respectable, histoire de ne pas se cramer, parce que ben, on remarque en fait que les coureurs qui n'ont pas vraiment de saison off, c'est-à-dire qui font de la course toute l'année, ont une tendance à plus se blesser. Moi, évidemment, j'ai une approche beaucoup plus santé maintenant avec les blessures que j'ai eues auparavant. Donc je me dis, bah, effectivement, je vais essayer de mixer un peu plus, je vais peut-être faire un peu plus de vélo, en tout cas du home trainer, je vais faire un petit peu plus de salle, un peu plus de renforcement, essayer de réduire justement la course, comme je l'ai dit, à peut-être 4 sorties par semaine, au lieu de 7, comme je le faisais, 7 voire 8, comme je le faisais pendant ma préparation. Donc on va vraiment essayer de garder un volume de maintenance, mais diminuer effectivement la course à pied et se donner en fait des objectifs de fraîcheur pour la fin de l'année. Donc voilà, le mardi Vietnam, là, c'était 3 fois 8 minutes au seuil. Alors, ça a été tout vachement difficile. En fait, j'avais l'impression d'être un fumeur depuis 10 ans au niveau respiratoire. Alors, est-ce que c'est des restants? Est-ce que c'est de la fatigue de la semaine de repos où je n'ai en fait j'ai accumulé une dette de sommeil? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je ne l'explique pas, mais pour l'instant, c'est vrai que les sensations ne sont pas encore très très bonnes. Mais ça revient doucement. Qui dit mardi Vietnam dit évidemment renforcement le soir. Donc on est parti faire du squat. Alors là c'était pareil. L'idée c'était de plutôt travailler autant, enfin je veux dire au RPE, travailler à l'effort perçu plutôt que de travailler avec des chiffres sur la barre. J'avais pas forcément d'idée de ce que je pouvais mettre en fait. Donc j'ai simplement fait trois séries de montées de warm-up, enfin d'échauffement. Et après ça, une petite montée en charge, et je me suis rendu compte qu'à 95 kilos, mon RPE était déjà bien éclaté. C'est-à-dire que je me restais peut-être 2 reps en réserve. Donc on est sur un RPE qui est déjà, au niveau de l'intensité, qui est déjà vachement haut. Et je voulais pas me griller une cartouche. Donc voilà, je suis resté à 90 kilos, qui est loin de mon max à 5 reps. On parle de 20 kilos de moins. Donc c'est pas grave. C'est la reprise, il faut le temps que le corps réagissent, il faut que les stimuli fassent leurs effets. Je sais que ça va revenir, je sais qu'au niveau du sommeil et de la nutrition, bah voilà, on repart sur des bases un peu meilleures également. Donc voilà, je sais que ça va revenir, c'est pas un problème, c'est normal d'avoir des doutes, mais il faut absolument faire confiance au process. Du coup, voilà, ça c'est le mardi Vietnam. On passe au mercredi. Alors mercredi, j'ai opté pour du vélo parce qu'en fait, bah, le mardi Vietnam, il a laissé des grosses traces après une semaine d'arrêt complète. J'ai eu tellement de stimuli en une journée. En fait, j'ai eu des courbatures. Bah, le soir même, j'avais des courbatures en fait. Donc c'était clair pour moi que le mercredi serait une activité sans choc. Et je me suis dit, je vais simplement aller faire 1 heure de vélo, profiter encore du temps, du soleil qui reste un peu dans les alentours de Namur, par chance. Et essayer justement de juste faire du décrassage. Donc on a fait une petite heure de vélo. Au niveau de la qualité du sommeil, je sens que je ne suis pas encore récupéré, mais ça commence à aller mieux. Et donc bah, en fait, ça sent bon pour la suite parce que les sensations au niveau des cuisses, au niveau des mollets, ça revient. Le seul bémol, c'est toujours un petit peu cette sensation au niveau du pied gauche et le psoas gauche qui est encore un peu tendu également. Donc toujours focus mobilité sur le restant de la semaine. Jeudi, alors là, reprise du soulevé de terre. Il faut savoir que le soulevé de terre, j'en avais pas fait depuis un mois. Et là, encore une fois, aucune idée de ce que j'allais pouvoir mettre sur la barre. Donc mon objectif, c'était de, encore une fois, faire un bel échauffement et faire 3 séries de montées en charge et voir où ça me mène. Ben en fait, j'ai pris une cartouche en tentant de mettre 125 en 5 reps. Alors, elles sont passées, mais ça a été fastidieux, ça a été très laborieux. C'est-à-dire que en fait, j'avais une perte du gainage dans le bas du mouvement. Je devais constamment en fait me reset, donc resetter mon mouvement, et ça a été vraiment compliqué. Suite à ça, je me suis dit aussi que je sentais que mon dos avait tendance à ne, enfin, je ne gardais pas en fait ma tension au niveau de mes grands dorsaux. Donc, ben, on va faire de l'accessoire et j'ai fait en fait du travail dorsaux en tirage par la suite pour vraiment compléter l'entraînement et que ce soit au niveau du dos et au niveau des ischio-jambiers. Donc voilà, le jeudi, très productif aussi, 2 heures d'entraînement, pas de course à pied, on essaye de justement limiter un peu le volume. Je savais que ce week-end, j'allais faire un peu plus de volume, donc je me suis dit, sauvegarde-toi, fais-toi un peu plaisir à la salle, fais-toi du bien, change-toi les idées. Et le vendredi, bah, pareil, en fait, je suis reparti à la salle et j'ai refait une séance de squat à 5 reps. Là, je suis monté à 95 kilos, si je ne dis pas de bêtises, en 5 reps. Et un peu mieux que mardi, les sensations étaient meilleures. Mais on est toujours loin de ce que j'étais capable de produire il y a un mois. Donc bah voilà, je fais confiance au process. Je me dis, c'est premier bloc de reprise. On a la première semaine du bloc sur les 4. Donc on a le temps de voir venir les choses. Et il ne faut pas se décourager. Alors, samedi, je me suis dit, OK, là par contre, T'as quand même bien tabassé les jambes en renfo. Il va falloir faire un petit peu d'activation pour aller décrasser tout ça. Surtout en trail, parce qu'en fait j'avais fait beaucoup de routes lundi et mardi, mais j'ai pas fait de trail du tout sur la semaine. Et en fait, le dimanche, j'ai mon ami Lionel qui m'a dit, viens, on va faire le trail du Tronquoy à Vierde, donc juste à côté de Namur. Et il voulait partir sur le 26 km pour se mettre une petite cartouche, chose que je ne peux refuser, surtout la météo annoncée. Donc, bien évidemment, j'ai accepté cette invitation sans trop me faire prier, n'est-ce pas, hein? Vous connaissez, on part sur quelque chose qui est plutôt.
Lourd, léger, professionnel.
Et donc, le petit samedi d'activation, je suis parti faire 1 h 30 de trail où. Où en fait, voilà, j'étais zone 2 la plupart du temps. J'essayais de rester en zone 2 en montée. Et en fait, certaines montées, je me suis permis de monter en zone 3 pour justement en tempo, pour sentir un petit peu les sensations quand on pousse un peu en montée. Et tout s'est bien passé. Il y a juste une légère tension mollet droit. Le pied suivait bien aussi. Donc, tout était OK. Donc on était prêt pour partir le dimanche sur ce fameux trail du Tronquoy à Vierde, 26 km et 600 mètres de D+. Alors c'était vachement roulant, je vais pas vous mentir, c'était super roulant. Donc on est parti. Alors déjà, par contre, pour la petite anecdote, trail du Tronquoy, il est marqué salle du Tronquoy au niveau de l'adresse. Je me dis, en tapant sur Google Maps, je vais taper salle du Tronquoy. Évidemment, ça ne trouve pas. Par contre, ça me trouve la rue du Tronquoy. Je me dis, bingo, si la salle du Tronquoy existe, la rue du Tronquoy doit être la rue de la salle. Ben, en fait, absolument pas. Donc, j'arrive à la bourre 10 minutes avant le départ. Je reçois un coup de téléphone de Léo qui me dit, bah, t'es où? Et je lui dis, bah, je suis dans la rue, mais je vois pas la salle. Et il me dit, ah, bah, t'as fait la même erreur que moi, c'est pas du tout là. Attends, je t'envoie le numéro de la rue. Donc, j'ai commencé à tracer. J'arrive vraiment à la bourre pour récupérer mon dossard, à peine le temps de m'échauffer. Et en fait, on prend le départ directement. Alors, on est parti quand même assez vite. Je pense qu'on avait tous les deux envie un petit peu de mettre de l'intensité dès le départ. Donc, on est parti assez vite pour ce qu'on avait l'habitude de faire quand on court à deux. On s'est pas mis en gestion dès le départ en disant on part à la cool. Non, on s'est pas menti. Je pense qu'on avait tous les deux besoin de purger quelque chose. Donc voilà, c'est parti. Premier kill sous les 5 minutes au 1000. Voilà, même dans les montées, on a bien poussé. Jusqu'au 13e kilomètre. Au 13e kilomètre où en fait on s'est fait attaquer par un nid de frelons. À ce moment-là, on était un petit groupe de 5-6 personnes. Je crois qu'on est 4 sur les 5-6 à s'être fait piquer. Moi, j'en ai pris une dans le triceps gauche. Lui, Lio, il a pris derrière le crâne directement. Et les deux autres personnes, je ne sais plus exactement, mais on s'est tous bien fait attaquer. Ça a été super agressif. En fait, j'ai pas eu le temps de réagir parce que j'ai à peine vu une sorte de brique de Lego volante orange devant moi, que en fait, il y en a un qui m'a piqué à travers le t-shirt. Vraiment pas cool. Alors, étant un peu à risque, et Lio particulièrement à risque, parce que lui, la dernière fois qu'il s'est fait piquer, il a fait une grosse réaction allergique en mode Bogdanov, donc pas ouf, et il n'avait pas d'épinéphrine sur lui. On s'est monitoré en fait tout le reste de la course pour voir si on ne gonflait pas, si on n'avait pas de réaction allergique prononcée. Faut savoir, il y a des gens qui sont partis en ambulance. Voilà, il y avait des petites raisons quand même de s'inquiéter. Bon, après 13 km de plus, effectivement, ça a un petit peu tapé sur le système. Je pense que pour tous les deux, on a senti une petite fatigue en fait à cause de la réaction. On est arrivé à la fin de la course sain et sauf. Mis à part une grosse plaque d'urticaire le jour même, pas grand-chose à signaler. Sauf que cette plaque en fait s'est étendue plusieurs jours après, mais bon, ça je l'expliquerai après. Donc voilà, là à ce moment-là, je me suis dit si ça devait me tuer, ça l'aurait déjà fait. Du coup, voilà, on a bien profité de la course, on fait un petit 2h30 sur 26 km, 600 mètres de D+. Moi je suis très content, lui un peu moins, puis il se sentait un peu fatigué. Maintenant voilà, il faut savoir aussi qu'il n'a pas le même volume que le début de cette année. Donc c'est tout à fait respectueux et je pense qu'on s'est quand même bien amusé, on a bien profité des chemins et encore une fois du soleil. Et donc voilà, c'était très chouette course, super bien organisée, rien à dire, rien à signaler, très très cool, à recommander. Alors ensuite, moi suite à ça, j'avais quand même envie de vraiment prendre ma recharge de vitamine D, donc je suis parti faire une petite récup de 1 heure en vélo, très très chill le long de la Meuse, ça m'a fait un bien fou. Et je pense que c'était une façon parfaite de terminer mon week-end et de me dire bah, que le bilan de la semaine est très très positif, c'est-à-dire que les sensations dans les jambes reviennent petit à petit, les sensations au niveau de la force reviennent petit à petit également. Donc même si effectivement on n'est pas sur les mêmes intensités, bah, les volumes restent quand même conséquents. On finit sur une semaine à un peu plus de 64 km. Très très content, deux sorties vélo d'une heure, à peu près 5-6 heures d'entraînement à la salle, donc très 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 content, très satisfait, je pense rien à signaler. Alors au niveau de la piqûre de frelon, ben, en fait 48 heures plus tard j'ai toujours une plaque d'urticaire qui a même grandi, donc là antihistaminique, etc., dose de cheval, grosse fatigue, difficulté à l'entraînement évidemment. Mais voilà, on débriefera un petit peu la semaine par après, une fois qu'elle sera finie en tout cas. Donc jusque-là, tout est bien, qui finit bien, on va continuer le boulot, on va continuer à faire ce qu'on a à faire, et on va surtout ben, regarder un petit peu comment on va planifier jusqu'au Lumson, parce que j'ai envie d'aller mettre un petit chrono sur le 22 km. Et essayer un petit peu de me surpasser en fait sur un format un peu plus court parce que je trouve ça cool aussi de faire un peu de vitesse et pas que du long et lent. On va essayer un petit peu de voir ce qu'on peut pousser fin de cette saison. Voilà, voilà pour le débrief.
This morning, I discussed the idea of the self as the basis of the universe.
Alors justement, on va parler cette semaine-ci du doute, des dégâts que ça peut provoquer, que ce soit au niveau de la préparation physique, mais au niveau de l'objectif, peut-être même au niveau enfin, de manière générale en fait dans vos objectifs de vie. Il y a quelque chose avec le doute qui est assez important à comprendre, c'est que c'est normal d'en avoir. Le doute fait partie du processus. Si vous n'avez aucun doute, c'est que votre objectif est trop facile et qu'il est temps de step up. Et en fait, je pense que dans ce podcast, depuis le début, on a prouvé à maintes et maintes reprises que le fait de faire confiance au processus, de ne pas s'attendre à des résultats immédiats et de simplement faire le travail et de rester constant, ça paye ses dividendes et ça donne des résultats. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit à ce niveau-là. Je pense que c'est assez clair. Je pense que si vous écoutez ce podcast depuis le début, il y a toujours eu des doutes à certains moments. Il y a eu des courses moins bien que d'autres. Il y a eu des prépas plus difficiles que d'autres. Il y a eu des passages au niveau préparation mentale qui ont été difficiles également. Et au final, si on regarde le bilan de la saison qui n'est pas encore terminée, mais en tout cas au niveau de l'ultra distance, on va dire cette saison-ci, bah, le contrat est rempli. On a fait le boulot, on a bien performé, on est arrivé sur une première course en haute montagne qui s'est ultra bien passée. Voilà, suffit en fait de faire le taf et il suffit aussi de se donner un petit peu de slack en fait, un petit peu de bénéfice du doute, voilà, simplement. Donc voilà, ça c'était la pensée pour moi-même de cette semaine. Je pense qu'on retire tous les mêmes enseignements ici. Et je pense qu'avoir cette confirmation via vous, via les retours que vous me donnez, via votre propre expérience et via aussi bah, mon entourage et mes proches qui parfois me remettent un petit peu. La réalité, quand j'ai tendance à me dire, ben oui, ouais, là, je suis pas sûr que ce que je fais, c'est bon, et d'avoir un petit peu ce côté critique constructive venant de l'extérieur, ben, je pense que on est sur un chemin qui fonctionne et il n'y a aucune raison de changer une équipe qui gagne. Donc voilà, on va continuer comme ça, et je pense que là, à la fin de la saison. Comme je l'ai dit dans le débrief, on va focus sur des courses à plus courte distance, mais on va aussi faire en sorte que On se retrouve frais mentalement pour le début de 2024, avec des objectifs qui donnent envie, avec des objectifs qui vont peut-être donner un peu de doute justement, hein, parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Il y a beaucoup de variables dans l'ultra trail. Et par contre, bah, il y a quand même des choses qui restent certaines, c'est-à-dire que bah, le podcast continue. Malgré cette fin de saison 2023, on va continuer à proposer du contenu, on va continuer à faire évoluer un petit peu la plateforme. Je pense que pour beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, c'est une bonne source de motivation, c'est une bonne manière aussi de se créer des bonnes habitudes et d'avoir un petit peu un rappel régulier des valeurs qu'on essaye d'inculquer ici. Alors je dis on. Parce que ben, j'estime que maintenant je suis plus vraiment tout seul dans l'aventure. On sait qu'à la base c'était plus un journal personnel avec une sorte de manière de garder en fait une trace de ce que je faisais à l'entraînement et de mon évolution au niveau de mon développement personnel. Maintenant ça a bien dépassé ça, grâce à vous, grâce à tous ceux qui écoutent régulièrement, grâce à tous ceux qui partagent, tous ceux qui suivent sur Instagram et qui mettent des réactions sur les posts, les reels, les stories. Tout ça, en fait, c'est pas juste moi. Maintenant, c'est un on, c'est un nous. C'est aussi tous mes proches qui m'entourent et qui me permettent en fait de tester aussi mes idées. C'est-à-dire que je suis pas là à juste proposer du contenu. Je suis aussi là à beaucoup t'user, à beaucoup réfléchir et essayer en fait de tester mes idées avant de pouvoir les exposer au monde, voir si elles ont du sens, voir si ça tient la route, voir si en fait ça correspond également à ce que je véhicule moi-même en tant que valeur. Parce que bah, si j'ai des valeurs, mais que dans ce que je propose publiquement, on va dire, c'est pas du tout en accord avec moi, bah, ça va pas du tout. Donc ça, c'est aussi une bonne partie du travail et je remercierai jamais les gens, jamais assez les gens qui sont autour de moi et puis vous pour tout ça, pour toute cette expérience que vous m'avez procurée, juste parce que ça va faire plus d'une demi-année déjà maintenant hein, qu'on a ce podcast ensemble. Donc voilà, j'en profite en fait de cette pensée pour moi-même pour offrir un petit peu de gratitude à vous et tous ceux qui m'entourent et tous ceux qui permettent, qui rendent ce podcast possible en fait, simplement. Donc voilà. Alors le pourquoi tu fais ça, on va regarder un petit peu en fait ce que je me fixe pour la fin de l'année et comment je vois un petit peu justement cette fin de saison. J'en ai brièvement parlé pendant le débrief, j'aimerais bien justement étayer un peu. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles je veux garder un volume de course sans pour autant sans pour autant mettre beaucoup de volume. La raison numéro un, c'est parce que je sais que ce qui est très important dans l'année, en fait, c'est les kilomètres. Donc le volume sur l'année, qui est très important en termes d'indicateurs de performance. On le voit statistiquement chez les athlètes qui arrivent à maintenir un volume élevé sur l'année entière sont généralement des gens qui vont performer beaucoup mieux la saison suivante. Alors, il y a pas forcément. Je veux dire, il n'y a pas forcément de cause à effet sur le fait de faire du grand volume, mais le fait de faire du grand volume, c'est un indicateur que la préparation physique et l'entraînement est adapté pour la personne, parce que le fait de pouvoir faire du volume indique qu'il n'y a pas de blessure. En fait, une personne qui s'entraîne mal et qui ne respecte pas bien la quantification de son stress mécanique va avoir tendance à se blesser et donc n'aura pas un volume régulier toute l'année et donc ne performera simplement pas et aura trop d'interruptions en fait sur ses saisons. Donc voilà, moi mon objectif c'est toujours cette approche santé. Je me dis je veux faire ça le plus longtemps possible, mais ça veut également dire que l'année prochaine ben, j'ai quand même envie de faire mieux. Bien évidemment, on essaie de se mettre des objectifs, comme on en parlait dans la pensée pour moi-même, on essaie de se mettre des objectifs un peu plus élevés, qui apporte peut-être un peu de doute, évidemment, parce que sinon c'est trop facile. Donc voilà, mon objectif n'est pas de tuer complètement mon volume de course, mais de le réduire, on va dire, à 60-70% de ce que j'ai pu faire dans mes grosses semaines de préparation pour la Wildschrubel. Je pense que c'est un bon volume, je pense que c'est une bonne maintenance. Donc on parle de 60 à 80 km par semaine, on parle de une à deux sorties de qualité. Et du volume de remplissage en fait autour de ça. Alors la deuxième chose que j'ai envie de maintenir, c'est justement dans le spécifique, c'est retravailler ma vitesse en fait jusque janvier. Donc j'ai vraiment envie d'essayer de passer un cap au niveau vitesse sur le plat, travailler vraiment le VO2 max à ce niveau-là parce que bah, en Belgique, on en a déjà discuté. C'est beaucoup du plat, c'est beaucoup de la relance entre elles. C'est-à-dire que les côtes ne sont pas très longues et en fait, une fois qu'on revient sur le plat, c'est là où on gagne pas mal de temps ainsi qu'en descente. J'estime qu'en descente, j'ai fait une énorme amélioration. On ne peut pas améliorer tous les points à la fois, je pense. C'est difficile de s'améliorer sur tous les plans, même si voilà, on peut rajouter des séances qui seront secondaires, on va dire. Donc je tiens bien à préciser que je ne repasse pas sur route, je fais vraiment du trail. Mais voilà, la spécificité du trail en Belgique veut que on ait plus axé vitesse sur les parties plates, sur les relances. Donc c'est sur ça que je vais travailler cet hiver. Alors, je maintiens évidemment un volume de course, ça veut dire que j'ai beaucoup moins d'heures d'entraînement, mais ça veut dire que j'ai plus de temps pour faire autre chose. Ou faire d'autres activités sportives. Je vais évidemment me mettre, enfin j'ai déjà des objectifs en fait cet hiver pour le power, donc au niveau force athlétique. Alors ces objectifs sont peut-être scandaleux pour les gens qui ont l'habitude de faire de la force ou du power, compte tenu de mon poids et ma taille. Maintenant, pour moi qui suis dans un modèle d'entraînement hybride et d'athlète hybride, je suis conscient qu'on ne peut pas évoluer sur tous les terrains. Donc du coup, là, je vais focus vraiment à la salle et focus tout ce qui est force parce que j'ai un objectif au squat de faire au moins deux fois mon poids, donc c'est-à-dire au moins 140 kg au squat. Et j'aimerais également monter à 170 kg au deadlift avant la fin de l'année et si possible un 100 kg au développé couché avant la fin de l'année. Alors ça fait beaucoup, mais ça veut dire qu'en fait le temps que je dégage à courir moins, c'est du temps que je vais rajouter à mettre plus de volume à la salle et donc possiblement bah, atteindre ces objectifs. Je pense que le squat, c'est quelque chose qui est très prenable. Le deadlift un peu moins, le bench plus compliqué également, mais je pense que le deadlift c'est plus probable que le bench, donc on verra un petit peu d'ici là. Je me donne décembre, janvier, et puis on va voir et on va essayer de faire les choses bien. Là, je suis en train justement de préparer mon programme, donc j'ai déjà fait une semaine, on va dire, de bloc pour voir un petit peu où j'en étais. Maintenant, dans le planning des entraînements, je vois exactement comment je peux ficeler ça parce que bah justement, il y a moins de courses, donc c'est moins stressant pour mon organisme. Et clairement, bah voilà, les objectifs sont là, donc on va travailler pour faire les objectifs. Et comme je l'ai dit, c'est sûr, il y a du doute sur le bench, sur le deadlift, sur le squat. J'ai un peu moins de doute, même si je me dis, bah voilà, c'est quand même un step, c'est 5 kilos de plus sur ce que j'ai mis en mon dernier max. Donc voilà, ça c'est mes objectifs de fin d'année. Alors, je garde quand même sous l'aile quelques courses en tête. J'ai envie de faire. La première, c'est le trail des Lumeçons, j'en ai brièvement parlé. Donc, c'est un trail à Namur qui se fait de nuit. Il y a trois distances. Je crois qu'il y a 8, il y a 15 et 22. Alors, personnellement, moi, je vais clairement m'aligner sur le 22 parce que je n'ai pas envie de faire une distance en dessous. J'estime que ça, c'est le genre de distance qui me plaît. C'est le bon équilibre entre pouvoir taper dedans et se mettre une cartouche, on va dire, et prendre du plaisir sur une distance. qui moi bah, j'ai beaucoup plus l'habitude de justement faire des très longues distances où on est beaucoup plus en gestion que justement se mettre dans le rouge. Donc voilà, j'ai très envie d'aller chercher un chrono personnel sur ce format-là. Je sais pas du tout comment ça va se passer parce que bah, c'est de nuit, je l'ai fait l'année passée, mais c'était 19 km. Ça s'était très bien passé à part le début où j'ai perdu énormément de temps parce que bah, en fait je suis pas parti dans le bon peloton en fait simplement donc j'étais trop derrière et après 400 mètres c'était vraiment un tesson de bouteille donc voilà on va voir un petit peu comment ça se passe donc le trail d'Illumson ça c'est une chose. Alors il y a un deuxième objectif qui est vraiment facultatif, c'est Hornspa-Hörn. Alors c'est un trail qui fait 70 km, qui se passe au mois de novembre, donc il est sold out, comme chaque année il est sold out. Donc pourquoi je dis c'est optionnel? Ben, en fait si j'arrive à trouver un dossard, je pense que j'aurai envie de le faire. Qui plus est, j'aurais sans doute envie de le faire avec William, parce que je sais que lui a déjà son dossard. Et je pense que ça peut être très chouette qu'on le court à deux de nouveau. Même si j'imagine que sur des trails comme ça, ben, où il y a moins de grosses descentes, où lui est peut-être un peu plus raide, je pense que là, clairement, il me mettrait une petite cartouche. Mais voilà, ça c'est objectif secondaire. Et après ça, voilà, c'est que du plaisir, c'est que les trails vers Noël, etc. On verra, j'aurai peut-être des sorties avec des potes pour essayer de les motiver un peu. Et il me restera la GTLC Winter. Donc c'est la version hiver de celle que j'ai fait cette année-ci en été. Qui là, c'est 35 km. Et là, je vais courir avec mon pote Lio, qui a pris cet objectif pour cette fin d'année de pouvoir se remettre un peu dedans. Donc voilà, ça c'est clairement mes objectifs de fin d'année. Je pense que ça va être bien rempli. Je pense que ça va me libérer un peu de temps. Le fait d'aller plus à la salle et de moins courir, ça va me libérer un peu de temps aussi pour me ressourcer mentalement et me ressourcer pour avoir cette niaque pour les objectifs de 2024. Alors, j'ai déjà quelques idées en tête. Je n'ai pas encore mon planning complet. Une fois que j'aurai le planning complet, je vous en ferai part pour partager ça avec vous, évidemment. Et voilà, c'est tout pour le pourquoi tu fais ça aujourd'hui. J'espère que ce dernier épisode vous a plu. Enfin, ce nouvel épisode vous a plu. Ce n'est pas le dernier, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas, évidemment, à follow la Prépa Podcast sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner sur Spotify ou Apple Podcast, peu importe la plateforme de podcast que vous utilisez. N'hésitez pas à m'envoyer vos demandes directement sur Instagram ou sur la page Facebook si vous avez des questions par rapport à la préparation d'objectifs sportifs ou des questions simplement en rapport avec le sport santé, le développement personnel et le mieux-être. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente semaine d'entraînement à tous et toutes. Je vous souhaite d'excellents grinds dans vos projets, beaucoup de succès comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous, eh bien, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Prépa Podcast où on va un petit peu débrief ce début de bloc SBD et ce début de reprise d'entraînement VO2 max vitesse, etc. Voilà, merci à tous pour votre écoute et ciao!